vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Épître aux Colossiens. L'Épître aux Colossiens, nous serons dans le chapitre 4 ce matin. Alors, cet épître est un de mes livres préférés dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est assez facile, c'est le livre d'Ésaïe, mon préféré. Mais dans le Nouveau Testament, il y a ce livre-là, il y a le livre, l'Épître aux Hébreux. Et ici, dans le livre de Colossiens, Paul veut recadrer, en fait, les croyances, les pensées des Colossiens, parce qu'ils commençaient à suivre une mauvaise voie. Ça, on voit un peu à travers toute l'Épître. Et il remet l'accent sur Jésus-Christ. Et que Jésus-Christ est, oui, il est Dieu. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, au chapitre 2. Et puis, dans un ensemble de commandements et d'enseignements pratiques, au chapitre 3. Et puis, au chapitre 4, il arrive à la fin de cet épître. Et très souvent, on met l'accent sur ces trois premiers chapitres et on tire des leçons et voilà, on essaie de les mettre en pratique. C'est très bien, il ne faut pas ignorer ces trois premiers chapitres, mais on arrive au chapitre 4 et surtout à partir du verset 7, dans quelques instants, je vais lire du verset 7 jusqu'au verset 18. On arrive à ces versets et on se dit, mais quelle est la conséquence pour moi aujourd'hui ? Vous allez comprendre ce que je veux dire par cela dans quelques instants. Voilà, nous allons voir ces versets à la fin de Colossiens chapitre 4 parce qu'il y a une grande importance pour nous aujourd'hui. Alors, suivez avec moi, je vais lire Colossiens chapitre 4 à partir de verset 7 et je lirai jusqu'au verset 18. Tychique, le frère bien-aimé et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie auprès de vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime, le frère fidèle et bien-aimé qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Jésus appelé Justus vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu et qui ont été pour moi une consolation. Epaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que vous teniez bon comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux de Hierapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée, et Nymphas, et l'église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens, et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Édite Archip, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien le remplir. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes liens. Que la grâce soit avec vous. Prions pour mettre ces moments entre les mains de Dieu. Oui, Seigneur, nous nous tournons vers toi, nous demandons ton aide. Pour ces moments qui suivent, que tu diriges notre pensée, Seigneur, et que tu continues de nous transformer par ta parole puissante, et que toute la gloire te revienne pour cela. Entendons-nous, prions. Amen. Alors, ces versets dans Colossiens chapitre 4, on les lit, on entend tous ces noms, et on se dit, mais Tychique, Epaphras, même au verset 15, Nymphas, qui avait apparemment une église dans sa maison. Et toutes ces personnes, certains connaissent un peu bien, Luc, lui qui a écrit l'évangile, et qui porte son nom, aussi le livre des Actes. Mais bon, pour la plupart, on ne connaît pas du tout qui c'est. Onésime, qu'on a vu vers le début de ce passage, en fait, c'est de lui qu'il sera question dans le livre Epaphras, on va le voir au début de ce livre, mais on voit tous ces noms et on se dit, mais Paul, il cite tous ces noms, Dieu a permis à ce que ces noms arrivent jusqu'à nous. Parmi ces versets, on se dit, mais quelle est l'importance pour moi aujourd'hui de savoir que Tychique a vécu il y a presque 2000 ans. Et alors, quelle est l'incidence dans ma vie aujourd'hui? De savoir que Epaphras était là et travaillait avec Paul, et aussi apparemment travaillait dans l'église de Colosse. Certains commentateurs croient même que c'est lui qui a démarré l'église de Colosse. Ok, très bien, et moi, ici, 21e siècle, quelle est l'incidence? Parce que Dieu a préservé ceci jusque nous et il veut que nous apprenions en fait des leçons. Et on va prendre juste un de ces personnages ce matin. On aurait pu faire un peu l'ensemble de tous ces personnages ici, ces hommes que Paul y cite. Mais on va s'intéresser surtout au verset 12 et verset 13 à cet homme Epaphras. Parce qu'en fait, il va présenter des caractéristiques qui sont vraies chez tous les autres dont Paul parle, mais Paul, il va s'étendre un peu plus sur cet homme et va nous dire quand même des choses extraordinaires. Et justement, si Paul parle de cet homme, et si Dieu a permis à ce que cela arrive jusque nous, ben, il veut aussi que nous imitions ces hommes. Comme Paul a dit à Timothée, tu as vu ma foi, ma conduite, il faut l'imiter. Il faut m'imiter, il faut suivre comme moi je suis le Seigneur. Et justement, Epaphras nous sert d'exemple. Alors, verset 12, il est intéressant, Epaphras qui est des vôtres. C'est-à-dire, lorsqu'on compare avec les versets au chapitre 1er, Epaphras était venu de Colosse apporter des nouvelles à Paul de comment l'église se portait. Et en fait, l'église se portait très bien. Paul fait la louange de cette église au chapitre 1. On ne prendra pas le temps ce matin d'aller voir cela, mais vous pouvez noter à côté, chapitre 1. Paul, par le biais d'Epaphras, apprend que l'église à Colosse va bien. Et il dit, qui est les vôtres? Et ceci va au-delà du fait que Epaphras était dans l'église à Colosse, mais aussi qu'il y avait un lien étroit entre lui et entre ses frères et ses sœurs qui étaient à Colosse. Et cela, on voit dans la suite, alors qu'on va développer ces deux versets, on comprend que Epaphras avait un amour de plus en plus grand pour ces gens à Colosse. Et il y avait un lien très étroit entre eux et entre Epaphras. Et on voit, ben, il vous salue. Il était parti loin de chez eux. Paul, ici, il se trouve sûrement à Rome. Colosse, à des centaines de kilomètres, sans les moyens de transport que nous avons aujourd'hui. Il fallait du temps pour envoyer une lettre, pour envoyer des nouvelles, même pour faire le voyage soi-même. Et du coup, Epaphras est parti de Colosse, il arrive chez Paul, et maintenant il a ce désir, et Paul va le dire, de retourner, et puis de voir ces personnes, et même s'il est loin, ben, il pense toujours à ses amis, à ses bien-aimés, là à Colosse. Donc on voit ce lien étroit qui existait, et il pense à eux. Il veut qu'ils se portent bien. C'est peut-être même Epaphras qui avait apporté cette lettre. Peut-être que c'était quelqu'un d'autre. Cette lettre de retour vers les Colossiens. Donc voilà, Epaphras, qui est les vôtres, vous salue. Et puis, cette phrase tellement importante, serviteur de Jésus-Christ. Serviteur de Jésus-Christ. Epaphras savait à qui il avait affaire. Il paraît que Epaphras avait une place de responsabilité dans l'église. C'était lui un peu qui dirigeait. Peut-être c'était le pasteur, mais au moins on voit qu'il avait quand même une place de responsabilité, mais il savait qu'il était serviteur de Jésus-Christ. Il était soumis à Dieu. Et encore une fois, ce mot doulos, serviteur de Jésus-Christ, littéralement esclave de Jésus-Christ. Et Épaphras, s'il a pu manifester cet amour et avoir ce lien étroit avec les chrétiens à Colosse, c'était parce que lui, il était serviteur de Christ. Il appartenait déjà à Dieu. Il servait Dieu. Et comme cela, il a pu servir ses frères et sœurs dans l'église de Colosse. Et c'est vraiment la clé de tout. Dieu veut que les chrétiens travaillent ensemble dans l'église. Dieu veut que nous nous mettions au service des uns des autres. Nous devons suivre l'exemple d'Épaphras en ayant des liens forts, étroits entre nous, pour que même si nous sommes loin, nous puissions dire « oui, je pense à mes frères, à mes bien-aimés », mais nous ne pourrons pas le faire si nous ne sommes pas serviteurs de Jésus-Christ. Et bien sûr, cela passe par une relation étroite avec Dieu, une relation personnelle avec lui. Si nous ne sommes pas chrétiens, si nous ne sommes jamais passés par la nouvelle naissance, ceci est impossible. Et une fois que nous sommes passés par la nouvelle naissance, une fois que nous devenons chrétiens, à ce moment-là, nous avons le devoir de nous mettre au service de Dieu, ce qui nous permettra de nous mettre au service des uns des autres. Ceci n'est pas quelque chose d'automatique. Ici, Paul dit, il est serviteur de Jésus-Christ et aussi des vôtres. Épaphras s'est mis au service de ses chrétiens parce qu'il était au service de Dieu. Et cela, il y a un travail là, il y a des efforts. Parce que si nous sommes chrétiens, si nous avons fait l'expérience de la nouvelle naissance, nous avons demandé à Dieu de nous sauver, gloire à Dieu. Mais pourtant, parfois, il y a notre nature pécheresse, notre orgueil qui est là, qui essaie de nous pousser à faire ce que nous voulons, nous occuper de nos propres besoins, d'ignorer ceux qui nous entourent. Et Épaphras, ce n'était pas du tout ça. Il y avait ces nouvelles de Colosse qui devaient arriver chez Paul. Et Épaphras s'est dit, je les apporterai. Je veux que Paul sache comment nous allons ici, alors je vais aller à Rome, je vais aller le voir en prison et je vais apporter ces choses. Et même si je suis loin, je pense à vous, Colossiens. Et il a pu faire cela parce qu'il était déjà serviteur de Jésus-Christ. Et serviteur de Jésus-Christ veut dire on obéit ce que Dieu dit. Si quelqu'un dit à son serviteur fais ceci, et le serviteur désobéit, c'est quelque chose de totalement illogique. Donc Épaphras obéissait à Dieu, mais aussi il était en communion étroite avec Dieu. Parce que qui dit serviteur dit passer du temps avec le maître, veut dire faire sa volonté. Et du coup, Épaphras, en s'inspirant de sa relation avec Dieu, va pouvoir manifester quelque chose d'extraordinaire envers ses frères et sœurs. Et il le fait pour Paul, il était une grande source d'encouragement pour Paul, mais également pour ses frères et sœurs à Colosse. Donc, Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, et regardez ce qu'il fait. Regardez, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. C'est quand même une phrase extraordinaire. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Lorsque vous voyez le mot « combattre », qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Qu'est-ce qui est venu à l'esprit de ces chrétiens premier siècle? Combattre, ils pensaient sûrement aux soldats romains, tirer leurs épées, ils avaient le bouclier et tout, ils se mettaient en guerre. Le combat est là. Et le combat ici, une des premières choses qui serait venue à l'esprit de ces chrétiens de Colosse serait le combat physique. Voilà, on est en lutte, il y a le combat physique. Mais regardez ce que Paul dit, il combat pour vous, Colossiens, dans ses prières. Et cela peut nous surprendre un peu, parce que c'est quand la dernière fois que vous avez combattu pour quelqu'un dans les prières? Cela nous arrive souvent de combattre avec des gens, combattre avec les gens même de manière physique, mais c'est quand la dernière fois que vous avez combattu pour quelqu'un d'autre dans la prière? Alors, cela implique qu'il y a une lutte spirituelle, n'est-ce pas? Nous savons que Satan, notre ennemi, rôde, il est là, il cherche à nous faire tomber. Et il cherche à faire tomber nos frères et sœurs. Il cherche une ouverture. Il veut nous rendre impuissants et inutiles à Dieu. Nous, et puis ceux qui nous entourent, nos frères et sœurs dans la foi. Et c'est quand la dernière fois que vous avez été saisis de cette idée, mon frère, ma sœur, quelqu'un que je connais, peut-être dans l'église ou peut-être ailleurs, est en lutte spirituelle et je dois prier pour cette personne. Je dois combattre. Donc, combattre ici implique qu'il y a une lutte, il y a, oui, le combat spirituel, mais aussi, s'il dit, il ne cesse de combattre, il y a la persévérance. Vous savez, on dit souvent, la guerre n'est pas gagnée dans un jour. Il y a quelques jours, on a célébré les 70 ans, la commémoration des 70 ans du débarquement. Il y a 70 ans, un jour, les Alliés ont débarqué. Est-ce que c'est le 6 juin que la Deuxième Guerre mondiale s'est arrêtée? Mais non, c'était pratiquement un an après. Donc une guerre, souvent, est très longue. Un combat ne s'arrête pas en un jour. Non, il y a la persévérance. Épaphras le savait, et Paul dit, il ne cesse de combattre pour vous. Il n'y avait pas de lassitude. Ce n'est pas comme si Épaphras priait un jour pour un tel, et puis le lendemain, tout va bien, j'arrêterai de prier. Non, deuxième jour, troisième jour, quatrième semaine, cinquième mois, cinquième année, il persévérait, Épaphras persévérait dans sa prière pour ses chrétiens, parce qu'ils savaient que c'était un combat spirituel et que ces chrétiens, ils en avaient besoin. Bien sûr, Épaphras avait ses propres besoins et il priait pour cela également, mais Épaphras ne cessait de combattre pour eux dans la prière. Et encore une fois, et j'étais saisi avec cela, c'est quand la dernière fois que moi ou que vous, nous avons été saisis du besoin de combattre dans la prière pour quelqu'un et puis de persévérer. Combien de fois nous avons entendu parler d'un besoin où Dieu nous fait penser à quelqu'un ou à une situation, on prie une fois, on prie deux fois, peut-être trois fois si tout va bien, mais on ne persévère pas. Et si nous voulons ressembler à Épaphras et manifester vraiment une vie totalement consacrée à Dieu, ben il ne faut persévérer, aller jusqu'au bout, parce que le combat, il est réel. Le combat, il est là. Que nous prions ou pas, le combat, il est là. Et il y a des frères et sœurs, des bien-aimés autour de nous qui ont besoin de notre prière, que nous combattions pour eux et avec eux, pas contre eux, mais avec eux, ensemble avec eux, dans la prière, dans cette lutte spirituelle. Et ensuite, il est intéressant les choses particulières pour lesquelles Épaphras prie. Parce qu'il va combattre dans ses prières, bien sûr, et Paul va montrer en fait la substance de sa prière, qui est quand même bien différente souvent des nôtres. Il dit « afin que », c'est un petit mot en grec, il fait trois lettres et pourtant il montre le but, « pour que », dans le but que, « vous teniez bon ». Afin que vous teniez bon. Parce qu'il y a le risque que ces chrétiens ne résistent pas. Il y a le risque que ces chrétiens tombent dans le péché, succombent à la tentation. Epaphras prie pour que vous teniez bon. Et je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Éphésiens chapitre 6. Paul, il dit un peu la même chose aux Éphésiens, en parlant de l'armure chrétienne, toutes ces choses que le chrétien doit employer dans, à la fois dans sa défense et puis dans l'attaque avec la parole de Dieu. Il dit, il faut tenir bon. Et après avoir tenu bon, après avoir tout surmonté, donc cette idée de tenir bon, et Epaphras priait pour que les chrétiens de Colosse tiennent bon. Tiennent bon. Et ça voulait dire que Epaphras lui-même se tenait bon, mais qu'il priait pour ses frères et sœurs pour qu'ils tiennent bon. Et il dit qu'ils tiennent bon, bon comme des hommes faits, littéralement des hommes matures. Ah, des hommes matures. Un enfant de 5-6 ans, ben, on ne va pas lui demander de faire des choses de quelqu'un qui a 20, 30, 40 ans. Non, c'est pas possible. Et pourtant, un homme ou une personne de 20, 30, 40 ans, on attend certaines choses de lui. On ne s'attend pas à ce qu'il se comporte comme un gamin de 5 ou 6 ans. Ce serait illogique. Ce ne serait pas naturel. Et Epaphras demandait à Dieu que ces chrétiens tiennent bon, qu'ils soient des âmes matures. Matures, ce qui implique une croissance. Une croissance. Et puis, à la fin de ce verset 12, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. J'aime comment Paul s'exprime ici. Pleinement disposés. Là, il n'y a aucun doute. C'est pas, voilà, je flanchis, peut-être je ferai, peut-être je ne ferai pas, mais pleinement disposé. Et malheureusement, trop souvent, nous sommes soit dans une catégorie ou dans l'autre. C'est-à-dire, parfois, nous sommes pleinement disposés à faire une partie de la volonté de Dieu. Ou bien, nous sommes parfois un peu disposés à faire toute la volonté de Dieu. Malheureusement, on n'allie pas souvent les deux. Pleinement disposé à faire toute la volonté de Dieu. Ce n'est pas à nous de choisir ce que nous devons obéir ou pas dans la parole de Dieu et dans la volonté de Dieu. Et malheureusement, parfois on dit, oui, pleinement je suivrai un peu de ce que Dieu dit. Ou, ben, peut-être oui, je ferai tout ce que Dieu dit. Et il faut avoir les deux. Et Epaphras, lui, il priait à ce que ces chrétiens de Colosse mettent en pratique entièrement et à tout moment la volonté de Dieu. Ce qui va rejoindre ce que Paul a dit dans le premier chapitre, où Paul lui-même priait pour que les Colossiens soient remplis de la connaissance spirituelle, afin qu'ils aient le discernement pour savoir quelle est la volonté de Dieu. Cette intelligence spirituelle, il priait pour cela. Et Epaphras le rejoignait dans cette prière. Du coup, se posait la question, si je suis serviteur de Jésus-Christ, et veille que je le sois, est-ce que je continue dans la prière? Est-ce que je persévère dans la prière? Sinon, je devrais commencer à le faire et continuer. Et dans ces prières que je fais, est-ce que je demande à ce que la vie spirituelle de mes frères et sœurs soit enrichie, grandisse, qu'ils tiennent ferme, parce que les attaques de Satan sont là, les attaques du monde sont présentes, sont une réalité. Et est-ce que je prie pour que mes frères et sœurs dans la foi ne fléchissent pas, ne succombent pas à la tentation, que eux ils soient prêts et qu'ils obéissent à toute la volonté de Dieu. Est-ce que je prie dans ce sens? Je dois vous avouer qu'il m'arrive rarement de prier dans ce sens. Que le Seigneur m'en pardonne. Trop souvent, nous focalisons sur les besoins physiques. Et des besoins physiques, il y en a. On en a mentionné plusieurs ce matin. Même ici dans l'Église, il y en a certains qui souffrent beaucoup. Il faut prier pour ces choses. Il ne faut pas les ignorer. Les besoins financiers. financier. On passe par des moments difficiles sur le plan financier. Dieu le sait et il faut prier pour ces choses. Dieu va pouvoir, gloire à Dieu, mais il faut quand même prier. Mais n'est-il pas vrai que trop souvent nous mettons l'accent sur ces choses et nous ignorons le côté spirituel? Je crains que oui. Qu'il nous arrive trop rarement de prier comme Paul et comme Epaphras, lui, il prie ici. Pleinement disposé à faire la volonté de Dieu. Que ce soit vrai dans notre propre vie, mais que Dieu puisse nous entendre prier cela pour un frère ou une sœur en Christ. Parce que Satan ne voudrait pas que nous fassions la volonté de Dieu. Satan voudrait que nous suivions le train du monde et ce que le monde propose. Et pour faire face à ces attaques, il nous faut le soutien de nos frères et sœurs. Et puis, verset 13, Paul continue, « Je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous. » Ceci rejoint le début de verset 12. « Oh, il est des leurs et il souhaite leur envoyer ses salutations. Il est toujours lié avec eux. Il a une grande sollicitude pour eux. Mais également, regardez pour ceux de Laodicée et pour ceux de Hierapolis. » Une autre ville qui n'était pas très loin. Donc ces deux villes, Laodicée et Hierapolis, un peu dans le coin, dans la région de Colosse. Il est intéressant, ici, Epaphras, il a ce désir ardent de transmettre ces nouvelles à l'église de Colosse, leur dire combien il pensait à eux, combien il priait pour eux. Mais il ne s'est pas limité à Colosse. Apparemment, il venait de Colosse, il était beaucoup impliqué là à Colosse, mais également, il était impliqué à Laodicée, il était impliqué à Hierapolis, et parce qu'il travaillait à Colosse, ne l'a pas empêché de prier et de vouloir agir avec des chrétiens d'autres endroits. Et il nous faut nous garder de cela. C'est-à-dire de cette optique de nous centrer sur nous-mêmes à l'exclusion des autres chrétiens qui nous entourent. Bien sûr, il faut s'assurer que ce sont de vrais chrétiens. Mais si ce sont de vrais chrétiens, il faut prier pour eux. Il y a de vrais chrétiens qui souffrent et qui passent par des moments difficiles en Syrie et dans cette partie du monde. Il y a de vrais chrétiens qui souffrent et qui passent par des moments difficiles en Asie. Vous savez, au Thaïlande, en ce moment, il y a tout le bouleversement là. De vrais chrétiens sont là et ils subissent la persécution. Il y a de vrais chrétiens qui subissent la persécution et qui passent par des moments difficiles en Afrique. Nous arrive-t-il de prier pour eux? Pour demander à Dieu, pas simplement sa protection sur eux, mais pour ces choses spirituelles que Paul a mentionnées ici et pour lesquelles Epaphras, lui, y priait. À Rouen, pas loin d'ici, 45 minutes, entre 45 minutes et une heure, ça dépend à la vitesse que vous roulez, il y a une église, une bonne église, mais une église qui n'a pas de pasteur. Prions-nous systématiquement pour cette église, pour qu'elle retrouve un pasteur. C'est sur notre liste de prières, mais dans la semaine, prions-nous pour cette église. Encore plus proche, l'église de Mantes, petite demi-heure. Prions-nous pour nos bien-aimés, nos frères, là-bas, de la manière que Epaphras a prié. C'est une question que nous devons tous nous poser. Et bien sûr, entre nous. Nous connaissons les difficultés des uns des autres. Nous sommes une petite église et je loue le Seigneur pour cela. Ça nous permet de bien nous connaître et tout. Donc, on est au courant quand même de pas mal de choses. Et est-ce que cela nous pousse à davantage de prières? J'espère que oui. Et Epaphras, oui, il a prié pour Colosse. Il a persévéré dans ma prière là, mais il ne s'est pas limité à la qu'il est allé au-delà. Il a dit, voilà, et il ne s'est pas limité à Colosse, pardon. Il a dit, Laodicée aussi, un peu plus loin, je veux prier pour eux. Et puis encore plus loin, Hierapolis, je veux prier pour eux, parce qu'ils en ont besoin. Les chrétiens ici, dans cette église, aucun chrétien n'est exempt de ce besoin de prière. Et puis les chrétiens dans d'autres églises, ne les ignorons pas. Ils ont besoin de ce soutien que nous pourrons leur apporter par la prière. Et du coup, l'exemple d'Épaphras ici, comme j'ai dit, qui est un peu un exemple de toutes les personnes que Paul a citées ici, ses différents compagnons qui étaient avec lui, qu'il cite, Épaphras est là et il nous montre cet exemple formidable. Et cet homme qui, pratiquement 2000 ans, a agi pour le Seigneur de cette façon, on en parle encore à pratiquement 2000 ans plus tard. Et son exemple peut nous stimuler. Et ce que nous faisons aujourd'hui peut toucher la vie de quelqu'un. Et peut-être on en parlera plus tard, et on va dire oui, un tel ou tel m'a encouragé, un tel ou tel, il a prié. Et nous pouvons dire pour un tel ou tel, j'ai prié, j'ai vu le Seigneur agir, gloire à Dieu. Du coup, cette semaine qui est devant nous, on est tout au début, on a toute une semaine devant nous, il y aura des difficultés, il y aura différentes choses par lesquelles nous allons passer. Allons-nous prier les uns pour les autres. Au travail, peut-être vous avez quelques minutes de libre, peut-être il y a des moments, même chez vous, où vous êtes un peu libre, vos pensées commencent un peu à vagabonder, vous pensez à choses et d'autres. Prenez ces instants de penser à quelqu'un dans l'église, ou peut-être à un autre frère ou sœur en Christ que vous connaissez quelque part, et prenez quelques instants de prier pour cette personne de la manière que Épaphras priait ici. Et chaque jour, prendre une personne et dire voilà, je vais prier de manière spécifique pour un tel, une telle. Et voyez comment Dieu va agir. Peut-être il n'agira pas dans la semaine, mais Dieu agira. Et cela vous fera du bien parce que vous serez en train de suivre l'exemple que Dieu nous donne. Vous serez en train de lui obéir. Vous serez en train d'être son serviteur. Et ainsi, en fait, les liens vont grandir, vont se tisser, vont aller plus loin. Et en fait, c'est ce que Dieu, lui, il cherche à faire. Et Épaphras l'a bien compris. Je crains que nous avons encore beaucoup de chemin à faire, moi-même le premier. Mais nous pouvons prendre ce premier pas, commencer ça aujourd'hui. Et cette décision, nous pouvons la prendre aujourd'hui. Nous devons, Dieu le désire. Alors, sommes-nous prêts à prendre ces décisions? Allons-nous prier les uns pour les autres? J'espère. C'est ce que Dieu veut. Demandons à Dieu son aide dans ce domaine par la prière. Oui, Seigneur, nous voyons l'exemple de cet homme qui nous inspire, qui nous touche. Seigneur, dans notre vie au jour le jour, que nous ne soyons pas oublieux, mais au contraire, que nous puissions agir comme Épaphras, qui était plein de sollicitude, qui pensait à ses frères et sœurs dans la foi et qui ne cessait de prier pour eux. Seigneur, que nous soyons comme Épaphras, par ta grâce, nous sommes faibles par nous-mêmes. Nous avons besoin de ta grâce pour le faire. Aide-nous à grandir, Seigneur, au jour le jour, et que tu puisses être glorifié par cette décision dans notre vie et comment nous comportons. C'est en ton nom que nous prions. Amen. Alors, je vous invite à vous lever. Nous allons chanter un chant ensemble. C'est le numéro 250. Numéro 250, levons-nous pour chanter ce chant. le chantons pas n'importe comment, parce que ces versets, surtout le refrain, « Oui, prends tout, Seigneur », comme Épaphras, il priait que l'on soit pleinement disposé à faire toute la volonté de Dieu, pas une partie, pas parfois, mais pleinement disposé à faire toute la volonté de Dieu. « Oui, prends tout, Seigneur », pas juste une partie, mais tout, que ce soit notre prière. Chantons ces quatre strophes comme une prière à Dieu. Numéro 250.